Martial Château, bonjour. Agnès Tariel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux membres du collectif Accueil Migrants de La Flèche. Merci d'être sur Radio Prévert. Pour nous parler de votre actualité, en termes d'actualité, on va commencer d'abord par la mobilisation qui est la vôtre aujourd'hui, en tenant compte d'un contexte particulier où il y a référés expulsion qui ont été pris. Vous allez nous en dire plus dans quelques minutes, préciser le contexte de cette nouvelle mobilisation.
Oui, le préfet de la Sarthe a déposé un référé expulsion du logement pour deux familles et un monsieur seul, parce que ces gens ont été déboutés de leur demande de droit d'asile devant l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et aussi la CNDA, la Commission nationale du droit d'asile. C'est à partir du moment où ils sont déboutés du droit d'asile, les logements CADA dans lesquels ils sont ne sont plus de droit, et donc ils peuvent être expulsés. Jusqu'à présent, ça ne s'est jamais fait à La Flèche, mais là, la préfecture essaie pour trois logements. Le tribunal administratif statuera mardi 14 décembre à 9h30. Et donc nous, on appelle à une mobilisation pour informer et essayer de faire en sorte que ces gens ne soient pas expulsés en plein hiver. Un rassemblement donc le lundi 13 à 17h30.
Alors Agnès Tariel, vous évoquez donc des familles. Combien de personnes sont en jeu actuellement? Le sort de combien de personnes est en jeu actuellement?
Donc il y a deux familles, un couple avec trois enfants qui ont de 2 ans et demi à 9 ans, je crois. Et une autre famille avec 2 enfants, une petite fille qui a 3 ans et un ado qui a 13 ans. Et un monsieur célibataire.
De 40 ans.
De 40 ans.
En préparant cet entretien, Martial Château m'avait dit que ce sont des gens qui, pour certains d'entre eux, ont déjà travaillé.
Oui, il y a deux messieurs qui ont déjà travaillé, et une femme pour la deuxième famille. Ils ont été très bien appréciés par leur employeur et ils souhaitent continuer à travailler. Les employeurs ont fait des propositions d'embauche en CDI pour deux d'entre eux et en CDD pour la troisième. Et tant que ces gens n'ont pas un récépissé de séjour avec autorisation de travail, ils ne peuvent pas travailler. Donc c'est un comble parce que, comme ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont évidemment aucun revenu, et donc ils sont à la charge, je dirais, de la solidarité, alors que s'ils travaillaient, ils auraient leur indépendance grâce à leur salaire.
Et ce que vous dites, c'est qu'il y a des employeurs qui sont prêts à jouer le jeu malgré...
Ils ont même écrit des lettres pour dire qu'ils étaient prêts à, d'une part, deux personnes à les employer en CDI, une autre en CDD, mais oui, ça a été écrit même. Par eux-mêmes, par les patrons.
Ils ont des attestations tout à fait claires et nettes sur la qualité de leur travail et la promesse d'embauche.
Est-ce que dans cette situation, vous avez des leviers à faire valoir en tant que collectif Accueil Migrants de La Flèche? Et si oui, quels leviers avez-vous?
D'abord, dire que ces familles... elles n'ont pas obtenu le droit d'asile par l'OFPRA ou la CNDA. Quand on lit les rapports, ce n'est pas, quand on compare avec d'autres familles qui ont obtenu un droit de séjour, ce n'est pas parce que leur dossier était mauvais ou pas. C'est simplement que ce sont des familles qui viennent de milieux populaires, je dirais, et qui n'ont pas su... convaincre et avoir suffisamment d'assurance, je dirais, devant les membres de l'OFPRA et qui les ont interviewés, oui, enfin, c'est pas le mot, c'est...
auditionnés.
La même chose à la CNDA. Donc, c'est quelque part assez scandaleux, parce que je pense que ces gens sont impressionnés de toute façon quand ils passent devant des membres du jury, de ces jurys. Et donc, on peut comprendre qu'ils manquent de capacité de persuasion. Et ce n'est pas une raison pour ne pas prendre en compte que quelqu'un qui vient d'Azerbaïdjan, dans un pays qui est considéré officiellement comme sûr, mais que franchement, quand on sait qu'il y a eu deux guerres, et que ce monsieur qui est en France a eu son frère aîné tué à la guerre, c'est d'ailleurs sans doute une des raisons pour lesquelles il a eu des ennuis, parce qu'il a cherché à s'opposer un peu à ce régime. Voilà, c'est... Après, l'autre famille qui vient d'Abkhazie, Géorgie, c'est une situation aussi très compliquée, puisque des Géorgiens qui habitaient en Abkhazie. L'Abkhazie a été annexée par la Russie au moment de la guerre qu'il y a eu en Géorgie. Et donc ces gens ne sont pas forcément bien vus si jamais ils retournent aussi en Géorgie, parce que ils viennent d'Abkhazie. Voilà, c'est des situations très très compliquées pour eux.
Et donc vous...
Et pour le troisième, c'est du domaine, je dirais, plus du privé, mais c'est quelqu'un qui n'a pas respecté la coutume de son pays, du Sénégal, et qui s'est retrouvé en butte avec des gens de son entourage, de sa famille, et qui voulait aller jusqu'à... Il a eu des menaces de mort sérieuses. Voilà.
Donc au sein du collectif Accueil Migrants de la Flèche, vous, quand vous accueillez les gens, je ne sais pas si c'est le terme accueil, quand vous emparez des dossiers de ces personnes en situation de migration, vous faites valoir s'il y a des difficultés vis-à-vis de l'administration, vous vous dites « mais attendez, il y a des choses qu'il va peut-être falloir revoir en tenant compte, par exemple, du contexte géopolitique de ces pays-là ». C'est ça votre grille de lecture ?
Au départ, il faut bien voir que c'est les gens qui arrivent à la Flèche, ils sont envoyés par la préfecture, et c'est la Croix-Rouge qui est en charge de leur dossier. Tant qu'ils sont demandeurs d'asile... C'est-à-dire quand ils n'ont pas eu de rejet de la part de l'OFPRA et de la CNDA, c'est la Croix-Rouge qui s'en occupe. Après, ça devient, quand ils ne sont plus du ressort, quand ils ne sont plus demandeurs de droit d'asile, qu'ils ont eu un refus, ils sont un peu abandonnés à eux-mêmes, et donc c'est là qu'on intervient, nous, pour leur venir en aide, pour essayer de trouver, les aider à faire des recours juridiques, essayer de faire des demandes pour des raisons vie familiale, vie privée, ou pour des problèmes de santé, puisque en ce qui concerne la famille, le monsieur de la famille Abkhazie-Géorgie, nous avons fait une demande de titre de séjour temporaire pour raison de santé, parce que c'est quelqu'un qui a des soucis sérieux.
Et quand est-ce qu'on aura une réponse par rapport à cette demande de titre de séjour temporaire ?
Alors là, cette demande a été faite... en septembre 2020, ils ont eu un accusé de réception de cette demande, donc la préfecture l'a bien eu, et ils attendent toujours la réponse.
Et cette demande ne peut pas avoir un impact sur la procédure de référé expulsion.
On espère. C'est l'avocat qui a contesté ce référé. Mais évidemment a pris ça en compte. Donc c'est possible, il est possible que le tribunal administratif n'autorise pas l'expulsion du logement pour cette raison. Voilà. Aussi le fait que madame a la possibilité, elle, de trouver un travail, d'avoir un travail s'ils obtiennent un titre de séjour, y compris temporaire. C'est le seul problème, c'est d'avoir un titre de séjour avec autorisation de travail.
Donc, comparution de ces familles mardi prochain à Nantes.
Oui.
Et si d'aventure une décision favorable à la demande du préfet est prise, que feriez-vous au sein du collectif Accueil Migrants de la Flèche, Agnès Tariel ?
Pour l'instant, on ne sait pas trop, on attend, quoi. Donc, ça serait une action d'urgence. Comment ça va se passer ? Est-ce que les gendarmes vont arriver ?
Comment dire ? L'application du référé de l'arrêté d'expulsion, ce serait d'abord, les familles recevront une proposition de logement par le 115, c'est-à-dire les logements d'urgence. Or, sur la flèche, il n'y a pas de logement d'urgence. Donc ça veut dire que ces familles vont se retrouver envoyées dans un hôtel au Mans, Angers, on ne sait pas trop, mais certainement au Mans. Voilà, donc c'est des gens qui sont sur la flèche depuis 2 ou 3 ans, qui ont, avec des enfants scolarisés, enfin pour les deux familles qui ont des enfants, donc c'est vraiment une rupture dans la scolarité des enfants que de les déplacer, surtout s'ils sont envoyés en hôtel, ça veut dire qu'ils risquent d'aller quelques semaines à un endroit pour changer encore de lieu après. C'est un hébergement provisoire, le 115, hein, c'est... Voilà. Officiellement, on ne les met pas à la rue en plein hiver, mais on les met dans des lieux d'accueil qui sont réservés pour les gens qui sont à la rue.
C'est des gens qui ont commencé à avoir un tissu relationnel, qui s'insère dans la société fléchoise.
C'est ça que je voulais dire aussi. On n'a pas dit, ça fait peut-être 4 ans, plus de 4 ans qu'ils sont à la flèche.
3 ans.
Ça va faire 4 ans, là, Les Azerbaïdjanais, ça va.
Ils sont arrivés le 8 juin 2018, ça fait 3 ans et demi.
Oui, 3 ans et demi. Bon, voilà. Donc, qui ont une vie sociale complètement organisée, quoi. Les enfants vont à l'école, ils sont bien, ils ont des amis. Par exemple, la femme azerbaïdjanaise, elle aime bien faire la cuisine, donc il y a déjà eu des échanges avec d'autres familles, avec nous.
Ils ont été, comment dire, au cours de français de lire et comprendre. Ils aussi. Y vont encore. Déjà, ils sont habitués avec un certain nombre de formateurs pour apprendre le français, etc. C'est une rupture de tout ce qui a pu être fait pour les intégrer depuis trois ans et demi.
Et ce que je dis à chaque fois, c'est que des gens qui se plaisent à la flèche, qui se plaisent, qui aiment la ville de la flèche, quoi. C'est quelque chose de fantastique, quoi. Enfin, fantastique, c'est agréable d'entendre ça.
Oui, vous pouvez le dire. Ils se sentent bien dans un endroit donné. Oui, c'est bien, voilà, de ne pas être en rupture. Parce qu'il pourrait y avoir aussi des gens qui seraient complètement en rupture avec la société. Mais là, tel que vous en parlez, ça ne semble pas être le cas. Et c'est des arguments que vous allez faire valoir à la sous-préfète, puisque vous m'avez dit que vous allez être reçu la semaine prochaine, précisément le vendredi 17 décembre.
À 14h30.
Par la préfète, vous allez lui dire ça ? Ah oui, la préfète, lapsus. Elle n'est pas encore préfète, elle est sous-préfète, Véronique Orté, précisément. Donc c'est des arguments que vous allez lui faire admettre, voilà, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis des années sur la flèche avec ces familles-là et qu'il faudrait que l'administration en tienne compte.
Oui, tout à fait. C'est des arguments humains, quoi. C'est vrai que l'administration, je comprends que tout est difficile à gérer, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas trop, nous, des absurdités quand même administratives.
Et même vous, qui êtes collectif Accueil Migrants La Flèche et qui jouez quelque part un rôle, hein, on va dire, quasi officiel, entre guillemets, aux côtés de l'administration pour accueillir ces familles-là, vous ne comprenez pas tout.
Non, on ne comprend pas les non-réponses, en particulier de la préfecture, à des demandes qui sont quand même, pour des raisons de santé, je ne vois pas, c'est réel. Il n'y a pas de tentative, je ne sais pas ce que craint l'administration. Est-ce qu'ils craignent des tentatives d'escroquerie, de je ne sais quoi? Mais bon, s'ils étudiaient sérieusement le dossier, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Pour des gens qui peuvent travailler et que l'employeur leur demande, les demande, on a besoin, je ne comprends pas qu'on puisse hésiter par rapport à des cas comme ça.
Bon. Et vous dites qu'il y a même des courriers des employeurs.
Les courriers de l'employeur sont sans. Et j'en ai un autre pour une personne qui n'est pas inquiétée par un référé, mais qui est incroyablement bon pour lui. Et j'espère qu'il y aura une suite positive.
Et entendons-nous bien, au niveau du collectif Accueil Migrants La Flèche, vous ne défendez pas des positions politiques. C'est ce que j'ai compris depuis quelques années qu'on a fait une interview avec vous, Martial Château, où c'est une autre personne. Vous ne vous situez pas dans...
Pas trop, mais je confirme qu'on n'est pas dans une position liée à un parti politique ou rien du tout. C'est avant tout une intervention pour les droits humains. Voilà, des gens qui sont arrivés en France pour différentes raisons, qui doivent pouvoir vivre dans des conditions décentes. Je pense que ça n'a rien de... Ça ne devrait pas être pris comme quelque chose de politique.
Mmh. Agnès Tariel, vous êtes sur la même longueur d'onde.
Ah oui, de toute façon, je vois dans le comité, on vient d'horizons différents. Je pense qu'on a des opinions politiques différentes. C'est un sujet qu'on n'aborde pas, la politique, et si ce n'est qu'on s'énerve après l'administration, quelquefois, mais qu'elle se soit de... Je pense que du temps de M. Hollande, c'était pareil. Voilà. Non, c'est... Il n'y a pas de... Et c'est pas un sujet, ça, c'est pas un sujet.
Donc, vous voudriez avoir de l'écoute, et puis au-delà de l'écoute, être entendu sur les dossiers de sites de personnes en situation... on va dire, délicate vis-à-vis de leur statut par l'administration, et surtout qu'il n'y ait pas de rupture entre ce qui est en train de se faire depuis quelques années maintenant, vous disiez depuis 2018, en gros.
C'était un peu plus... Je pense qu'il n'y a pas eu de rupture vraiment dans des difficultés d'intégration de tas de familles. Comment dire, la différence, c'est que jusqu'en 2015, il n'y avait pas quasiment très très peu de familles migrantes à La Flèche. C'est arrivé à partir de 2015. Les deux premières années, comme il y a les demandes OFPRA, CNDA, c'était géré par la Croix-Rouge. Il n'y avait pas trop de gens en grande difficulté. C'est à partir de 2018 qu'il y a eu des familles en difficulté.
Mmh. Voilà. Et vous, au collectif, vous continuez, vaille que vaille à...
C'est très prenant.
Ouais, c'est ce que je vois, je lis, voilà, c'est très grave, c'est très l'entretien que nous sommes...
C'est très prenant au point de vue temps, parce que au moment du confinement, moi j'ai été appelé plusieurs fois par une famille avec un bébé, il n'avait plus de lait, tout était bloqué, et on est intervenu presque tous, hein, on est tous presque intervenus pour un secours d'urgence matériel. Et bon, ça prend forcément du temps, tout ça. Les Restos du Cœur, tous les vendredis, il y a un covoiturage qui est organisé, parce que ces familles, pour la plupart, n'ont pas de véhicule. Donc pour aller à Ivry-le-Poulain, au Resto du Cœur, il n'y a pas d'autre solution que la solidarité. Avec des fléchois qui prennent leur voiture. Voilà.
Et aujourd'hui, Agnès Tariel, membre du collectif Accueil Migrants, La Flèche, il vous faut du soutien. Les gens peuvent vous soutenir.
Peut-être de nouveaux membres, ça serait une bonne chose, parce qu'effectivement, comme vous le dit Martial, c'est quand même du temps. C'est de l'énergie, c'est le moral qui n'est pas toujours là, parce qu'on se bat un peu contre des moulins à vent. Oui, il y a du boulot, il y a du taf. Donc effectivement, des nouvelles personnes qui rejoignent le collectif seraient accueillies à bras ouverts.
Et donc, vous appelez un rassemblement lundi soir. Lundi, on sera le 13 décembre. La veille donc de la tenue de l'audience en référé expulsion à Nantes, précisément. Et avant de terminer cet entretien, que voulez-vous dire, eu égard aussi au contexte où, on le sait, depuis mars 2020, il y a encore une crise sanitaire qui s'est rajoutée. Je suis sûr que vous avez aussi cette grille de lecture-là, où vous dites que ça aussi, ça complique encore les choses.
À partir du moment où la pandémie reprend, il est évident que ça semble inacceptable d'expulser des gens. On ne peut pas demander aux gens de plus ou moins se confiner pour éviter de contaminer d'autres personnes et les expulser de leur logement. Je crois que c'est voilà. Parmi ces familles, il y a une famille dont un des enfants a la Covid, et donc ils sont priés de rester chez eux. Comme toute personne qu'on a. Donc je pense que vouloir expulser des gens dans cette période, c'est inacceptable. Impensable et inacceptable.
Agnès Tariel.
Alors moi, je parlerai par rapport plutôt à ce que nous apportent ces familles. C'est quand même un mélange de cultures qui est... C'est bateau ce que je veux dire, mais c'est enrichissant. On apprend un tas de choses. Et puis en plus, je pensais à ces travailleurs là qui sont prêts à bosser, et qu'on attend. Quand en ce moment on prend la voiture, on voit partout qu'on recherche la main d'œuvre. Donc dans les familles là, il y en a un qui est maçon. On en manque partout et on veut le renvoyer dans son pays où il va aller en prison. Non, moi je me dis que c'est que du positif, hein, que du positif. Des situations qui sont quand même pénibles quelquefois même pour nous, mais ça peut que apporter des choses au pays et puis à nous, moralement parlant. Mmh. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup d'être passé sur Radio Prévert parce que ces échanges aussi sur ce sujet, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias sur les personnes en situation de migration, ces exemples que vous avez, ces témoignages aussi sur les liens qui se créent sur les différents territoires. Et puis aussi, lorsqu'on entend le terme migrant, bah vous parlez de monsieur, de madame, des enfants scolarisés. Voilà, il y a des tranches de vie qui se devinent en creux dans vos propos. Et merci pour ce passage dans nos studios. Donc vous revenez quand vous voulez pour qu'on parle aussi de ces sujets qui sont d'intérêt public. Voilà.
Je pense qu'on pourra revenir en particulier lorsqu'il y aura un retour du tribunal.
Avec, qu'il en est. Avec plaisir, on sera là pour vous accueillir dans ce studio, ici même à la Flèche. Et Martial Château. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose.
Quelque chose dont je voulais parler, c'est de quand une famille obtient un titre de séjour.
Oui.
Pour des raisons comme vie familiale, vie privée, le titre de séjour n'est pas gratuit. C'est 425 euros. L'administration demande 425 euros de timbres fiscaux.
D'accord.
Voilà, quand on dit que les migrants coûtent cher, on leur demande beaucoup pour des gens qui n'ont rien.
Et vous disiez également que les employeurs sont
les
également...
Les employeurs, dans certaines conditions, peuvent être amenés à payer... une taxe pour pouvoir employer des migrants.
Donc il n'y a pas qu'un déséquilibre entre le coût supposé des personnes en situation de migration, voilà, et en face, et qu'il n'y aurait rien en termes de rentrée pour l'administration.
Il faut bien voir, par exemple, qu'un passeport pour un Français, c'est 86 euros de timbre fiscal, alors que là, on demande 425 euros pour un titre de séjour d'un an.
C'est aussi des sujets comme ça pour lesquels ce genre de missions peuvent être faites sur une radio comme celle-ci. Merci de mettre aussi ces informations sur la place publique pour qu'on réfléchisse aussi autour de ces enjeux-là, puisqu'on parle vraiment de personnes humaines et puis on parle de cohésion sociale finalement, puisqu'on les côtoie, on les voit. Ils sont ici, maintenant, avec nous et... On reparlera de ces personnes avec vous, Agnès Tariel, Martial Château, membre du collectif Accueil Migrants La Flèche, sur Radio Prévert. Vous reviendrez quand vous voulez pour nous faire un état des lieux. Ok ? Merci infiniment.
Et on vous remercie aussi.
Avec grand plaisir de vous recevoir ici et sur la radio.